Vous êtes sur RTL.
Parole.
Pascal Pro sur RTL.
On est donc avec Benjamin, c'est intéressant. Bonjour Benjamin, rebonjour.
Rebonjour Pascal.
C'est intéressant parce que j'imagine que vous en avez un peu assez. Vous êtes pharmacien, vous êtes à Lens, vous en avez marre comme nous tous de cette atmosphère, de ce climat.
Dire le contraire serait mentir, donc oui, effectivement. Si vous permettez juste, Pascal, comme c'est la journée du compliment, j'aimerais complimenter toutes les personnes qu'on a au téléphone sur le travail qu'ils font. Voilà.
Alors ça, je suis d'accord avec vous. Et on le dit sans arrêt, et les auditeurs qui nous écoutent tous les jours connaissent les noms de Pierre-Louis, de Evan, de Cyranouche, d'Olivier, et qui font un travail absolument formidable. Et d'ailleurs, vous l'entendez très souvent, puisque les gens qui nous appellent disent « Ah, j'ai eu Evan, ah, j'ai eu Cyranouche, j'ai Olivier, c'est des gens formidables et de ça. » Vous avez raison. Merci pour eux.
Bah, c'est normal. Faut dire quand c'est bien. Donc oui, après 4 à 6 semaines à tenir. C'est vrai qu'il n'a pas dit le mot assouplissement, mais on a l'espoir. Hein. On va espérer, c'est dans la nature humaine de toute façon.
Et on n'a pas le choix d'abord.
Déjà, on n'a pas le choix, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on va espérer pouvoir revivre peut-être moins... pouvoir sortir, se revoir, et puis la vaccination là qui va s'accélérer. Je pense que il a peut-être dit ça parce qu'il voit un espoir lui aussi sur la vaccination des personnes qui ont des comorbidités ou qui sont sensibles par rapport au Covid. Donc on espère que d'ici 4 à 6 semaines, on ait pu vacciner toute cette population là pour pouvoir souffler, pour pouvoir ressortir.
Moi, j'ai interprété comme vous. C'est-à-dire qu'effectivement, si toutes les personnes les plus fragiles sont vaccinées, ce sont elles qui arrivent en réanimation et qui mettent en tension l'hôpital. Si ces personnes sont vaccinées, on peut imaginer que l'épidémie, pourquoi pas, perdure, mais en tout cas, qu'il n'y ait plus de cas graves.
Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, les hôpitaux seront plus surchargés et ça permettra en fait de récupérer une vie comme avant le début de cette épidémie. Et bon, si vous permettez aussi juste une chose par rapport à la vaccination, parce que nous au niveau du comptoir on entend pas mal de choses, j'aimerais quand même parler d'AstraZeneca et de rassurer tous les gens qui écoutent en disant que c'est les personnes justement de plus de 50 ans et de moins de 65 ans pour l'instant, on espère que ça saute vite et qu'on puisse faire les plus de 65 ans avec des comorbidités ont la possibilité de le faire, qu'ils le fassent. C'est un vaccin qui est sûr. Il a montré encore, en plus, des résultats qui sont plus importants que ce qu'avait dit le laboratoire au départ. On est quand même à 80% de couverture à la première injection, quasiment 90% à la deuxième injection, 12 semaines après. Et voilà, moi, j'invite tous les patients qui sont dans ces tranches d'âge à aller se faire vacciner, à aller voir leur médecin, à aller voir leur pharmacien, demander des explications, s'ils ont peur, on va les rassurer. Et voilà, nous, c'est ce qu'on fait là depuis plusieurs semaines. On a des patients qui ne voulaient pas, qui vont le faire ou qui l'ont fait. Moi, je le fais samedi, je suis super content, j'ai hâte. Donc voilà, faut y aller.
Alors, je vous lis précisément, parce que les mots ont toute leur importance. Hein. Il a appelé donc aujourd'hui à tenir encore 4 à 6 semaines avant de pouvoir desserrer certaines contraintes face à l'épidémie de coronavirus. Mais ça, c'est pas lui qui le dit. Hein. C'est d'une certaine manière le journaliste qui l'interprète.
Oui, voilà.
Il a eu un échange avec des jeunes dans un centre de formation au métier industriel à Stein, donc en Seine-Saint-Denis. Et il est interpellé par un jeune homme qui lui demandait de prolonger jusqu'à 19h le couvre-feu parce que c'est dur. Et le chef de l'État l'a exhorté en souriant à tenir encore quelques semaines. 4 à 6 semaines, a-t-il ajouté, au cours de cette visite donc, du site L'Industrie. Mais jamais le mot assouplissement n'a été prononcé, et jamais d'autres mots n'ont été prononcés. Hein. C'est important de le dire. Mais tout le monde, évidemment, entend, forcément, parce que entend, espère. C'est-à-dire qu'on entend toujours ce qu'on a envie d'entendre en même temps, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt logique.
À nous aussi d'aider le président à faire en sorte que ça se réalise. Je parle, nous, en tant que professionnels de santé, je parle aussi les Français en faisant attention. Donc, je pense qu'il y a possibilité d'y arriver. J'espère.
Ben merci Benjamin, vous étiez le premier auditeur. Évidemment, l'événement de cette émission, ce sera le jugement, tout à l'heure, jugement imminent pour Nicolas Sarkozy. Pour tout vous dire, je regarde les images et Nicolas Sarkozy n'est pas encore arrivé au tribunal et je ne sais pas, et on ne sait pas en fait, s'il sera présent au tribunal tout à l'heure. Ça va évidemment être l'une des curiosités de ce jugement. Est-ce qu'il sera présent ou pas? Et puis, évidemment, au-delà de la curiosité, chacun attend le jugement de l'ancien président de la République. Ce devrait être à 13h30. L'audience est programmée à 13h30. Est-ce qu'on saura à 13h30 pile si Nicolas Sarkozy est relaxé ou s'il est condamné? Je pense qu'il faudra peut-être attendre quelques minutes. En tout cas, il est 13h06. Je salue Greg Karanoni.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui.
Ah, mais c'est la journée du compliment, c'est
pour ça. Non, là c'est sincère.
Ah bon, d'accord. Mais quel
pour
plaisir
une fois.
D'être avec vous, parce que vous êtes un réalisateur assez remarquable. Depuis ce matin, c'est les compliments, depuis la chronique de Cyprien Sini. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La foule des grands jours au palais de justice de Paris, avec des caméras, des journalistes et beaucoup de policiers. Sachez que Gilbert Azibert, qui est le magistrat de la cour de cassation, qui comparaissait pour corruption passive et trafic d'influence, est arrivé. C'est le premier des trois mis en examen qui avait été... dont c'était le procès il y a de cela quelques semaines, alors que Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy ne sont toujours pas encore présents dans ce palais de justice de Paris. Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy sera-t-il le deuxième ancien président condamné sous la 5e République après Jacques Chirac? Le tribunal correctionnel de Paris rend à partir de 13h30 son jugement dans l'affaire dite des écoutes. Le 8 décembre, le parquet national financier a requis contre l'ex-président de 66 ans 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, était l'invitée hier du grand jury sur RTL.
Moi, je le crois innocent. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces affaires. J'étais favorable à la création du parquet national financier au moment où il a été créé, parce que je pensais qu'on avait besoin d'une justice professionnelle pour traiter de ces cas de corruption qui gangrènent la démocratie. Aujourd'hui, je me demande si cet entre-soi du parquet national financier n'est pas en train de créer finalement un enfermement qui se traduit par une forme d'acharnement judiciaire.
Alors, relax, sous condamnation inédite, NAD préfère de toute façon parler d'un acharnement de la justice. Vous verrez, rajoute Petit Fab sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole, ces gens-là ne sont jamais condamnés à de la prison ferme. Laissons la justice faire son travail, demande Nicole. Ne nous transformons pas en juge. Et la seule demande de Sylvie, c'est que Nicolas Sarkozy ne revienne pas sur la scène politique.
Et je vous rappelle cette affaire qui est assez compliquée, bien sûr, mais Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sont soupçonnés d'avoir corrompu un des magistrats de la Cour de cassation, M. Azibert, pour qu'il les renseigne sur les affaires judiciaires en cours, les concernant, et notamment le fait qu'ils étaient placés sous écoute par la justice dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Donc on sera tout à l'heure, j'imagine, avec Anne Le Hénaff, qui est en direct du tribunal de Paris. Mais pour le moment, parce que vous réagissez déjà avant même que le jugement soit prononcé, vous êtes nombreux à nous appeler. Bonjour Sabine.
Bonjour Pascal, dans le cadre de la journée du compliment, je voulais vous remercier de l'honnêteté de vos réflexions.
Et bah écoutez, vous êtes gentille.
C'est assez rare pour le souligner.
c'est pas rare du tout, tous les journalistes sont honnêtes et sincères. Mais vous dites ça parce que vous devez penser sur certaines choses
que j'allais dire. Pas toujours comme vous, non. Non,
mais en tout cas, c'est gentil, Sabine.
Je vais parler les gens quand ils ont des idées un peu dissidentes.
C'est gentil, Sabine. Vous êtes avocate, donc vous êtes de la partie, si j'ose dire.
Je ne fais pas de pénal. Mais ceci étant, sur la procédure, il est vrai que le PNF, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on sait que si tous les justiciables ont accès à la justice de la même façon, on l'a vu avec l'affaire Tronce, qu'on soit jugé à Paris ou à Nice, avec les mêmes dossiers, on n'aura pas forcément le même résultat. D'accord ? C'est en fait que la justice a atteint ses limites. Concernant Sarkozy, j'ai regardé par curiosité que la notion de pacte de corruption. Alors, j'ai pas trouvé cette notion juridique, le pacte de corruption. J'ai été voir un petit peu plus loin ce qui lui reprochait, un faisceau de présomption. Alors, en droit, la présomption, c'est une preuve qui n'est pas formelle. Mais alors, quand il s'agit d'un faisceau de présomption, je veux dire que moi, si je me présente devant un juge pour un dossier avec un faisceau de présomption, je ne suis pas sûre que mon dossier soit entendu dans ce que je demande. Parce que ce n'est pas assez rigoureux, parce que quand il y a un doute, le doute profite toujours à celui qui est mis en cause. Et ça, c'est un principe de droit qui régit notre justice. Donc, je m'interroge sur la nature de la preuve. Je ne connais pas le dossier. Je sais simplement que un faisceau de présomption pour... Alors, j'ai regardé encore un peu plus loin ce que c'était. Un jour, ils ont entendu Maître Herzog dire « il a bossé ». Une autre fois, ils ont entendu plusieurs jours plus tard Nicolas Sarkozy dire « je le fais monter ». Et de ça, ils ont pu lire un faisceau de présomption si spécifique. C'est vraiment ça. Alors, je trouve que c'est un petit peu léger, d'autant plus que, si je ne m'abuse, ils ont cherché pendant longtemps qui était la taupe qui avait renseigné Herzog et Sarkozy de leur qu'ils étaient sur écoute, et il s'agirait de la fille même de la présidente du PNL.
Oui, alors ça, c'est effectivement, mais c'est les informations du point, mais vous voyez, en même temps que vous parliez, j'ai peur, vous êtes avocate, bien sûr, et vous connaissez ces dossiers assez précisément. Thierry Herzog est en train d'arriver au tribunal de Paris. Il est pour le moment à l'extérieur, et il est en train d'arriver. Je le reconnais derrière son masque, et il est avec Maître Temim, qui était son défenseur, qui était également l'avocat dans une autre affaire, celle de Bernard Tapie. Thierry Herzog est donc le deuxième mis en examen après M. Gilbert Azibert d'arriver, et Nicolas Sarkozy arrivera peut-être tout à l'heure. Thierry Herzog qui va pénétrer à l'instant dans le tribunal de Paris. Oui, Sabine, que dites-vous ?
Non, je trouve aussi qu'il y a quand même quelque chose qui m'a assez inquiétée dans ce dossier. Je me fiche un peu de savoir si Nicolas Sarkozy va être condamné ou pas. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est de savoir qu'on puisse mettre un avocat sur écoute quand il a des conversations avec son client. Et ça, c'est toute la profession en a parlé, mais ça m'inquiète. Parce que alors, dans ces cas-là, on n'est plus dans le contrat de confiance avec son client, on n'est plus dans la possibilité d'exercer son activité comme il se doit, telle qu'elle nous l'a été proposée non seulement par la Déclaration des droits de l'homme, par le Code civil, par le Code de procédure civile ou pénale. Mmh. Et ça, ça n'émeut personne. Alors il y a plein de choses qui...
Ça a ému quand même quelques personnes, parce qu'on rappelle qu'en 2014, là encore, je vais essayer de préciser, hein, les écoutes judiciaires révèlent la tenue de conversation entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur les téléphones mobiles enregistrés sous des faux noms. Thierry Herzog a ouvert une ligne pour Nicolas Sarkozy au nom de Paul Bismuth dans l'espoir de déjouer la surveillance de la police. Et Nicolas Sarkozy et donc Thierry Herzog sont mis en examen, je l'ai dit tout à l'heure, pour corruption active et trafic d'influence. Pas de déclaration d'Hervé Temim en tout cas et de Thierry Herzog, alors que je pense que la voiture de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est en train de franchir, me semble-t-il, les portes du palais de justice, et que Nicolas Sarkozy va sans doute être présent, là encore, pour écouter son jugement. Je ne voulais pas vous donner cette information tout à l'heure, mais je sais qu'une voiture était partie de la Villa Montmorency, là où réside Nicolas Sarkozy. Sabine.
Oui, non, ce que je dis, que ça, vous vous rendez compte que il est obligatoire pour un avocat de prendre une ligne sous un faux nom pour pouvoir parler avec son client. C'est des méthodes de la Stasi, ça, non?
Écoutez, c'est difficile pour nous, c'est pas facile pour nous depuis le départ d'avoir un avis définitif sur ce sujet, effectivement, et notamment les écoutes entre un avocat et son client. Je vous propose peut-être de marquer une pause, parce que je ne voudrais pas que nous ratillions l'arrivée de Nicolas Sarkozy au tribunal de Paris, et je pense que c'est imminent. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Toutes les caméras et tous les micros, et notamment ceux d'RTL, bien sûr, sont braqués sur le tribunal judiciaire de Paris, où à 13h30, on connaîtra le jugement pour Nicolas Sarkozy, mais également pour Thierry Herzog et pour Gilbert Azibert. En tout cas, l'audience commencera à 13h30, et sans doute faudra-t-il attendre quelques secondes ou quelques minutes pour connaître ce jugement. Le président Sarkozy n'est toujours pas arrivé, alors que Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont arrivés. Thierry Herzog, il y a quelques minutes, avec Hervé Temim et Julia Minkowski, qui sont ses avocats. Nous sommes avec Charles, bonjour, en direct de Lyon. Et ça vous fait déjà réagir, et je le dis, le jugement n'est pas encore tombé. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Ça me fait réagir. J'allais dire que le jugement s'imposera à tous, de toute façon, et il s'agira...
Il sera susceptible d'appel, quoi qu'il arrive.
Voilà, il peut faire appel, mais bon, il s'imposera à nous et on le respectera. Moi, j'ai lu
Nicolas Sarkozy, je vous interromps. Nicolas Sarkozy qui est en train d'arriver, il est seul avec ses avocats, le président de la République, ancien président de la République, qui a salué à la fois la presse et la police, et qui va donc, comme Thierry Herzog et comme M. Azibert, qui va prendre l'ascenseur, pour tout vous dire, pour monter jusqu'à la salle d'audience, et qui va pouvoir lui aussi assister. C'est donc le dernier des mises en examen à être arrivé à 13h19, à 10 minutes de l'ouverture de cette audience, qui va assister donc à ce jugement. Charles, je vous ai coupé, pardonnez-moi.
Non, je vous en prie, la priorité est là-dessus. Je voulais juste vous dire que j'ai lu les articles approfondis qui relataient les audiences. Je crois que c'était au mois de novembre, de mémoire. Et on a vu une chose absolument incroyable. C'est la défense de Nicolas Sarkozy, et notamment, je crois que c'était Maître Lafon, si j'ai bonne mémoire, qui avait mis carrément dans les cordes l'accusation. C'est même les journalistes les plus aguerris au prétoire ont constaté qu'il y avait... Il y avait tellement peu de force dans les preuves et dans les faits que finalement, sans arrêt, le parquet était dans les cordes. Et Maître Lafon a littéralement imposé...
Jacqueline Lafon, qui était son avocate.
Oui, c'est ça, voilà. A littéralement imposé son point de vue, puisque, en fait, il n'y avait rien. Moi, ce que je constate, c'est que, à mon sens, l'accusation repose sur une construction intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a imaginé un système à partir de quelques mots et à partir de cette technique des filets dérivants, des écoutes, des portables des avocats. D'ailleurs, vraiment, on se pose la question sur la démocratie. À partir de ça, on a pris quelques mots, on a pris des extraits et puis on en fait une construction. Et on a essayé de retrouver les preuves en allant chercher à la Cour de cassation qui était la taupe. Et puis finalement, on n'a rien trouvé. Donc, comment Nicolas Sarkozy peut-il être condamné, et notamment à ce qu'a requis le parquet, c'est-à-dire 4 ans de prison. Ils ont tellement peu d'arguments qu'en fait, ils ont surrequis en termes de sanctions.
Alors, les avocats de la défense, effectivement, avaient plaidé le manque absolu de preuves à l'encontre des prévenus, et ils avaient dénoncé un réquisitoire dangereux pour l'état de droit. Et il y avait eu cette formule qui avait été reprise par les journalistes à l'époque de Hervé Temim, qui disait « Qui porte atteinte à l'institution judiciaire ? Des prévenus qui doivent être relaxés, ou vous qui sous-entendez que les plus hauts magistrats de France ont menti ?» Donc, c'était évidemment extrêmement tendu que ce procès. Alors, là où vous avez raison, et c'est compliqué, c'est ce qu'on rapporte dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est que ce procès est d'une certaine manière dangereux pour lui parce qu'il laisse une très grande interprétation possible au juge. Il n'y a pas de fait matériel, il n'y a pas d'éléments matériels. C'est ce qu'on appelle des faisceaux de présomption. Donc après, effectivement, j'allais dire, tout est possible. Je ne sais pas si on peut le traduire comme ça.
Tout est possible, mais alors là, ça voudrait dire quand même que ça penche très sérieusement plus du côté de l'imagination et de l'interprétation que du côté des faits et de la procédure. Quoi. Voilà.
Ben, vous êtes c'est toujours amusant d'ailleurs. Vous êtes un soutien de Nicolas Sarkozy historiquement, si j'ose dire, Charles ?
Non, absolument pas. Moi, je trouve que s'il est condamné, c'est sans doute qu'il y a des preuves irréfutables.
Irréfutables, non, il n'y en a pas de toute façon. Là. Les faisceaux de présomption, il n'y en aura pas.
Je l'ai trouvé assez digne lors des audiences. J'ai trouvé qu'il s'était défendu.
Il était là tous les jours d'ailleurs. Il était là présent. Un procès qui s'est déroulé entre le 23 novembre, en tout cas qui s'était ouvert le 23 novembre.
Ah oui, c'est ça.
Et dans lequel il était très présent. Et je rappelle que les magistrats du parquet national financier, que sont Jean-François Bonnert et Jean-Luc Blachon et Céline Guillet, ont requis 4 ans de prison, dont 2 avec sursis à l'encontre des 3 prévenus, ainsi que 5 ans d'interdiction professionnelle à l'encontre de Thierry Herzog. Extrêmement lourd. C'est-à-dire que Thierry Herzog, s'il est condamné, il ne peut plus travailler.
Et vous vous souvenez de Paul Bismuth ? Il était là, il était représenté, il n'était pas représenté. Il y avait un avocat, mais non, mais ce n'est pas le vrai Paul Bismuth, c'en est un autre. Vraiment là-dessus, c'est d'une fragilité hallucinante.
Ben merci Charles, merci beaucoup. Xavier est là, chef d'entreprise à Chartres, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Et merci, votre avis ?
Alors, pour vous dire ma couleur politique tout d'abord, aujourd'hui je ne suis ni de gauche ni de droite. même si je suis un ancien électeur de droite. Mais disons qu'aujourd'hui, comme le dirait Macron, il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a des... Il y a soit des...
Mais ne vous justifiez pas, vous avez le droit ou d'être de droite ou d'être de gauche. Hein.
Oui, je suis plutôt conservateur, on va dire.
D'accord. Voilà. Bah, écoutez, personne n'est parfait.
Non, tout à fait.
Et puis parfois on est conservateur sur certains domaines et puis libéral sur l'autre et puis social-démocrate sur un troisième. C'est rare qu'en fait on soit conservateur sur tout ou social-démocrate sur tout ou libéral sur tout.
Rien n'est tout noir ou tout blanc, effectivement. Alors mon avis sur, sur l'affaire Sarkozy et sur d'autres affaires, c'est qu'on a à ce niveau-là un certain acharnement des juges. Qui sont avant tout des idéologues, malgré le serment qu'ils ont pu prêter quand ils ont commencé leur carrière. Et donc ce sont des gens qui sont plutôt très axés à gauche au niveau idéologie et qui depuis quelques années ciblent tous les gens de droite qui ont potentiellement fait de petites ou grandes infractions.
Comme Jérôme Cahuzac par exemple.
Ah, vous avez bien préparé votre émission.
Mais ne, je prépare rien du tout. Mais vous êtes tous prévisibles. Je veux dire, il y a sûrement des idéologues.
Ouais, non, mais si vous faites
il y a sûrement des juges qui sont. Alors là où vous avez sans doute raison, c'est que la magistrature globalement, elle doit pencher un peu à gauche. Là, vous avez sans doute raison. Comme voilà, sans doute. Mais ce qui est ennuyeux, c'est quand on essentialise, quand vous dites tout. Forcément, il y a des magistrats et puis il peut avoir des surprises. On verra tout à l'heure. Par exemple, la magistrate qui avait relaxé Bernard Tapie, on n'imaginait pas qu'elle le relaxe et puis elle l'a relaxé.
Ouais, c'est vieux. Il y a eu trop de gouvernants depuis le début de l'affaire Tapie. Mais quand vous regardez ces dernières années, que ce soit des anciens de droite ou des anciens de gauche qui ont rejoint Macron, qui ont trempé dans des affaires, aucun n'a été condamné, ni même très inquiété par la justice. Mmh. Par contre, la justice s'intéresse aux anciens gens de droite qui pourraient faire de l'ombre ou qui faisaient de l'ombre en 2017 à M. Macron.
Pensez à François Fillon.
Concrètement, la justice n'est pas indépendante. Elle choisit les chevaux sur qui elle peut compter pour qu'on ne l'ennuie pas trop. Copinage et compagnie, magouille et compagnie. M. Macron doit beaucoup au juge pour son élection. Rappelez-vous l'affaire Fillon. Hein. Et je pense que M. Macron compte encore sur les juges pour être élu l'an prochain. À moins que M. Macron fasse de grosses bêtises au niveau de son casting, comme il l'a fait avec M. Dupond-Moretti.
Bon, ben, en tout cas, ça ne concerne pas forcément Nicolas Sarkozy.
J'invite les auditeurs à se renseigner sur le livre qu'a écrit M. Régis de Castelnau, qui est un avocat de gauche.
Oui, qui vient de sortir, là, j'ai vu ce livre. Vous pouvez rappeler son titre, peut-être ?
J'ai plus le titre en tête.
Mais je l'ai vu, effectivement. Je l'ai vu sortir.
Un monsieur de gauche qui critique des juges de gauche, on ne peut pas dire que ce soit impartial. Donc c'est très intéressant.
Bon, merci.
Sinon, Pascal, je voudrais parler un jour du Great Reset. Ce serait intéressant aussi.
Alors ça, oui.
C'est pas du complot, le Great Reset.
Hein. Non, bah, c'est vous qui l'avez dit, le mot complot, j'allais vous le dire, mais bon.
Vous
êtes terrible. Mais comme c'est le jour du compliment, c'est la journée du compliment, on va rien dire. Bon, 13h27, les trois prévenus sont aujourd'hui dans le tribunal, dans la salle d'audience, et le jugement est annoncé à 13h30. Et Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert. On devrait connaître la fin du suspense dans un petit quart d'heure, parce que l'audience va d'abord commencer et le jugement n'est pas immédiatement prononcé, en tout cas par le juge. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Décision imminente au tribunal de Paris, Laurent Tessier.
Relax ou condamnation, Nicolas Sarkozy ne va pas tarder à être fixé. Il est arrivé il y a quelques minutes au tribunal correctionnel de Paris. Le jugement dans l'affaire dite des écoutes va être rendu début décembre. Le parquet national financier requis 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. Écoutez ce que disait l'ancien chef de l'État chez nos confrères de BFM le 13 novembre.
Je sais maintenant qu'il ne suffit pas d'être innocent pour ne pas avoir d'ennui. Que j'ai un téléphone pour parler avec mon avocat. Ne fais pas de moi un délinquant, parce que la vraie voyoucratie, madame, c'est de mettre sur écoute les plus grands avocats de Paris pour se payer Sarkozy.
Et Nicolas Sarkozy ne s'était pas arrêté là.
Je suis à plus de 200 heures d'interrogatoire. J'ai répondu à tout. Et les Français doivent le savoir. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute et je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri.
Nicole maintient et parle d'acharnement contre l'ancien chef de l'État. C'est son message sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. La justice aura fait son travail. Lance Véronique, nous attendons vos avis dès maintenant au 3210 3210.
Et François est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
François voilà, qui habite Deauville et qui attend comme nous le jugement.
Oui, oui, bah, je pense que c'est un jugement politique, hein. C'est pas nous. Hein. C'est-à-dire c'est la poursuite des murs des cons, vous vous rappelez les murs des cons?
Oui, on en a souvent parlé voilà, à ce micro.
Cette petite cour, elle a été fabriquée par M. Hollande, vous vous rappelez? Monsieur Hollande qui a fabriqué cette petite cour pour attaquer les politiciens quand ça n'allait pas.
Donc, là, vous parlez du parquet national financier, qui est une création voilà. de François Hollande.
Voilà, qui est de tendance gauche, comme Monsieur Sarkozy est tendance droite. Naturellement, c'est l'ennemi qui est en face, parce que c'est pour le rendre éligible. Vous savez très très bien qu'il a été mis 9 mois sur table d'écoute. On met un président, un ancien président, 9 mois sur table d'écoute, mais c'est scandaleux, pour avoir trouvé aussi des choses aussi minables. C'est-à-dire que même dans la fonction publique, vous savez très bien que tout le monde est recasé par piston. Vous savez très très bien les trois quarts du temps, je dis peut-être pas en général, mais le trois quarts du temps. Alors donc, ça c'est un système qui veut descendre M. Sarkozy, comme on a descendu M. Fillon. Parce que si jamais, par exemple, la gauche repasse, tout le monde garde ses acquis en France. C'est-à-dire toute la fonction publique, la haute fonction publique garde ses acquis. C'est-à-dire qu'il va falloir réformer un jour ce pays. Alors c'est pas la gauche qui va réformer, qui va diminuer le mammouth, hein, comme disait M. Allègre. Donc la justice, elle est gérée par la gauche, la télé, la littérature, la presse. Et puis on voit toujours le système que juste avant les élections, c'est comme par hasard, ça se présente juste avant les élections. Vous voyez ce que je vais vous dire? Moi je pense qu'il va être condamné.
Vous voyez de la gauche partout. Vous voyez de la gauche, je dis vous voyez de la gauche partout, c'est-à-dire dans les médias, dans la justice, dans la littérature, dans le cinéma, dans tout le monde est de gauche.
Elle n'est pas minoritaire, vous le savez très très bien. Le mur des cons, vous vous rappelez très très bien.
Puis je suis d'accord avec vous, c'est le syndicat de la magistrature, mais tous les magistrats n'appartiennent pas au syndicat de la magistrature. C'est ça le mur des cons.
La majorité est de gauche. La majorité est de gauche. Et ce qui est fait toujours, c'est la majorité qui fait qui fait la différence. Et puis naturellement, comment cette cour-là a été installée par M. Hollande, vous le savez très très bien.
Hein. Installée, là, c'est encore autre chose, c'est le parquet national financier. Mais par exemple, si dans deux secondes, Nicolas Sarkozy est relaxé. Vous direz quoi, François? Vous direz je me suis trompé, toutes mes analyses sont par terre?
Ah non, non, mais moi, vous savez, j'ai pas à juger, je suis pas juge.
Vous êtes pas juge, vous avez là, vous êtes, vous avez un avis quand même, et il est clair.
Oui, mais
vous dites tout le monde est à gauche, donc pour vous tout à l'heure, Nicolas Sarkozy va être condamné.
Oui. Pour moi, il va être condamné pour qu'il ne puisse pas se représenter l'année prochaine, parce que même ils feront pas les.
D'accord.
Sarkozy,
mais s'il ne l'était pas, vous diriez. Vous diriez, je me suis trompé sur tout ?
Ah non, 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 je ne me suis pas trompé du tout. Parce
Okay, aucun cas où vous vous trompez.
Donc, non, 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 non.
S'il est condamné, donc vous dites, j'avais raison, mais s'il n'est pas condamné, vous avez aussi raison.
Ah ben, s'il n'est pas condamné, c'est qu'ils vont s'apercevoir que c'est minable sur les choses qu'il l'accuse. Attendez, mettez tous les Français 9 mois sur table d'écoute, vous allez voir ce que vous allez trouver. Mettez toute l'administration sur table d'écoute, vous allez voir tous les coups de piston, tous les coups qui se passent, véreux et foireux en dessous, vous le savez très bien que c'est gigantesque. Donc, avoir mis même des avocats sur table d'écoute, vous savez très très bien que c'est grave.
Mais c'est ça que je n'ai pas arrivé, si vous voulez, dans ce process, ce qui m'a étonné, c'est que ou c'est légal ou c'est pas légal. Et j'ai pas eu le sentiment qu'il était illégal, même si ça peut être choquant moralement, qu'un avocat écoute son client. Manifestement, ça se faisait pas. On peut avoir un jugement moral là-dessus, mais ça ne sort pas de la légalité. On a le droit d'écouter en France un avocat qui parle à son client.
9 mois.
Oui, non, mais attendez-vous. Sur le fond, là, je me fais un peu l'avocat du diable. On a bien compris qu'il a eu un traitement de faveur, d'une certaine manière, Nicolas Sarkozy, sur ce sujet. Ça, nous serons d'accord là-dessus, et c'est pas donner son avis que de dire ça. François, merci.
Oui, attendez, 30 secondes.
Je vous en prie.
Vous avez été mis en attente.
Ah.
Ne quittez pas.
Ah,
je sais pas comment vous allez
François, il nous a bâché, François. Il nous a mis en attente. C'est pas nous, hein. Je précise, c'est
vous
pas nous.
Vous avez été mis en attente.
Bah, on va retrouver François, et en attendant, c'est Françoise. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Donc je souhaitais intervenir bien évidemment sur le sujet du jour. Hein. Et je me dis, en fait, tous les... Enfin, je ne vais pas dire tous les présidents, où il y a plein de gens qui ont, entre guillemets, ce qu'on appelle un petit peu des casseroles, parce que ça existe partout, puis il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a quelques, il y a 10 ou 20 ou 50 ans, il y en avait toujours. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'acharnement sur cette personne. Voilà. Et je me dis, bah, soit il a fait vraiment quelque chose qui n'est pas bien, peut-être, mais d'autres l'ont fait aussi et sont passés à travers les mailles du filet. Et donc, je me dis, d'abord, il est courageux parce qu'il se présente à chaque... voilà, il y va en se disant, de toute façon, je ne me laisserai pas faire, j'irai jusqu'au bout.
C'est aussi son intérêt, pour le coup. Hein, c'est son intérêt.
Ah, je suis d'accord. Mais soit c'est une intelligence exceptionnelle, parce qu'à un moment, je me dis, d'autres ont fait des choses. Alors, certaines sont sorties, d'autres moins. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même... Sarkozy, c'est vraiment de l'acharnement, quoi. Tout, toujours. Mais je veux dire... Enfin, je veux dire, moi j'ai 63 ans, j'ai connu... Enfin voilà, il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas bien. Certaines sont sorties, d'autres ne sont pas sorties. Et là, je me dis, s'il doit être condamné, ben il est condamné. Mais si... Parce qu'à un moment, pourquoi toujours lui?
C'est bah, c'est-à-dire c'est que pour il y a un autre procès d'ailleurs qui arrive, mais
bah oui.
Effectivement...
Alors, vous imaginez. C'est tout le temps. Alors, effectivement, c'est pas 100% blanc et pas 100% noir. Mais je me dis, pourquoi que lui? Et pourquoi on ne parle pas des autres?
Je peux pas répondre évidemment à cette question. D'abord, c'est pas toujours lui non plus, disons-le. Il y a l'affaire Big Malion, il y a cette affaire...
Oui, mais il fait toujours la une à chaque fois.
C'est vrai qu'il a eu des rapports parfois difficiles avec... La justice.
Après, on peut reconnaître que c'est
l'intelligence. Oui. En fait, il y a trois affaires. Il y a l'affaire Kadhafi, il y a l'affaire Big Malion, et puis il y avait cette affaire-là. Voilà. Ce sont les trois affaires dans lesquelles est impliqué l'ancien président de la République. On marque une pause et ce jugement, vraiment, l'audience a commencé à 13h30. C'est imminent. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Jugement imminent au tribunal de Paris. Sachez que Jean-François Bonnert, qui était le chef du parquet national financier, qui était venu requérir en personne aux côtés des deux procureurs présents à l'audience, eh bien, il est là pour le jugement. Nous sommes avec Gilles. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Je suis globalement d'accord avec la plupart de nos auditeurs précédents. C'est une parodie de justice. On a l'impression, c'est comme si... Alors, l'histoire de l'accusation par rapport à Kadhafi, le témoignage écrit non authentifié, c'est comme si on demandait à Beria de témoigner qu'il n'y a pas eu de déporté politique en Russie. J'hallucine vraiment.
Alors, on va laisser tomber, pour le moment, en tout cas, laisser de côté le procès Kadhafi, mais je vous propose de rester sur ce procès.
Oui, mais il ne reste pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression, alors, qu'il y ait une certaine partialité d'un certain nombre de juges, ça c'est un fait qui semble difficile à nier. Le deuxième point, c'est que si la justice est indépendante, dans ce cas-là, qu'on poursuive, qu'on enquête et qu'on poursuive sur toutes les fuites, quand on voit que les rendus de jugement sont dans le monde avant d'être publiés, on se dit il y a quand même un problème. Or, le secret de l'instruction, c'est un droit du justiciable. Et on s'aperçoit que visiblement les fuites sont devenues récurrentes, donc il y a des juges qui parlent à des journalistes et qui finalement ne sont pas sanctionnés. Donc moi je me demande, la question que je me pose maintenant, c'est quand les juges devront-ils rendre des comptes sur le fait qu'ils peuvent faire n'importe quoi? Ce sont des fonctionnaires, qu'on le rappelle. Alors certes, ils n'aiment pas qu'on le dise, mais ce sont des gens qui sont nommés, ils ne sont pas élus, donc c'est pas eux qui font la loi.
Et oui, mais qui
sont là, c'est vraiment une impression que ça donne.
Bah, ils ne font pas la loi, ils la rendent.
C'est ah non, mais justement,
ils rendent la justice au nom du peuple français.
Oui, mais
j'entends ce que vous voulez dire, mais ça serait quoi votre alternative?
L'alternative, c'est qu'il y ait une forme de cour suprême qui puisse dire aux juges qui commencent à se lâcher un petit peu, bon, les garçons, on arrête les frais, faites votre travail convenablement. Qu'un juge ait une opinion politique, il a le droit. Sauf que quand il juge, il ne doit pas avoir d'opinion politique. S'il en a une, il est en faute.
convenez que ces dernières années, des hommes de droite comme de gauche ont été parfois condamnés. Ce n'est pas tombé que...
Il n'y en a pas beaucoup à gauche. Vous prenez Cahuzac. Cahuzac, on va dire qu'il a vraiment poussé le bouchon très loin. Ferrand, il est au perchoir de l'Assemblée. Il a fait des trucs. N'importe quel citoyen français qui aurait fait la même chose dans le cadre de son entreprise aurait été condamné. On a voté le truc en touche dans le Nord. Enfin, bon, tout ça, ça a été manœuvré. La justice donne pas une impression. La justice donne pas une impression d'impartialité. Et je sais plus qui disait le meilleur moyen d'avoir un bon rendu de justice, c'est de ne pas avoir affaire à la justice. Clairement, j'aimerais pas avoir affaire à la justice.
C'est le ministre Olivier Guichard, baron du gaullisme, qui a été ministre de Giscard d'Estaing dans les années 70 et qui avait eu cette formule au sortir de sa mandature. Il avait dit j'ai appris une chose au ministère de la justice, c'est qu'il vaut mieux dans sa vie ne jamais avoir affaire à la justice. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, parce que par définition, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Il y a toujours.
Mais vous, si vous voulez, moi, si vous me permettez une réflexion, un juge, au nom de son intime conviction, peut vous pourrir la vie ad vitam.
Oui, alors intime conviction, c'est uniquement aux assises. Hein. A priori, il faut des éléments. Il faut des éléments matériels avant
cela. Justement, revenons-en aux éléments. Dans l'accusation dont on parle aujourd'hui, qui fait l'objet de la discussion, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de la justice?
Il y a des écoutes.
Oui, il y a
et
des écoutes.
Et qui sont interprétables ou pas, il y a des écoutes.
Voilà, et qu'on n'a pas écouté en audience, visiblement, si je me réfère à ce qui a été dit sur votre antenne.
Non, mais c'est, faut rappeler, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Du 28 janvier au 11 février 2014, Gilbert Azibert aurait été celui qui permet à Nicolas Sarkozy et à Thierry Herzog de connaître l'état des débats au sein de la Cour de cassation. Bien que ne faisant pas partie de la chambre de criminels, il glanait ou il aurait glané les réquisitions du parquet général et le mémoire du rapporteur pour informer l'avocat que la décision lui sera favorable.
Alors,
et selon une des discussions écoutées, il prend rendez-vous avec un conseiller pour bien lui expliquer ce qu'il faudrait. Mais même en lisant cela et en lisant les fiches que j'avais un peu préparées, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et c'est une affaire qui est très très complexe.
Mais Pascal Praud, on en revient au secret de l'instruction, c'est que si ce monsieur a pu avoir des informations, c'est sans doute que quelqu'un les lui a données.
De quel monsieur vous parlez? De Gilbert Azibert?
Oui, exactement. S'il a su des choses, c'est que quelqu'un le lui a dit. Il ne l'a pas deviné, il ne l'a pas lu dans les tarots.
Bah, effectivement, donc, c'est que quelqu'un l'avait.
Oui, mais justement, ce sur quoi je reviens, c'est que les auteurs de fuite dans le système judiciaire ne sont jamais ni poursuivis, ni condamnés. Et ça, c'est scandaleux.
Écoutez, Gilles, là encore, c'est ce qui est important, c'est votre avis et votre perception et votre sensibilité. Ce dont je m'aperçois depuis 13 heures, c'est que les gens, manifestement, sont en défiance sur l'institution judiciaire. C'est cela que je remarque. Et c'est vrai que ces dernières semaines, l'exemple Georges Tron était extrêmement intéressant. En première instance, il est relaxé. En deuxième instance, il a pris 3 ans ferme. Donc, qu'est-ce qui a changé? Le dossier? Sans doute pas, c'était le même dossier. Donc le climat de l'époque a changé. Ah oui, il a changé. En 2 ans, 2018, c'est pas 2020. Ou 2021. Donc ça crée effectivement une forme de défiance. Mais ce sont des hommes qui rendent la justice. Ce sont des hommes, cher Gilles. Donc ils sont soumis à toutes les influences humaines, climat ambiant.
Alors dans ce cas-là, ils sont pas dignes d'être juges.
Parce que vous voudriez qu'il soit inutile.
Ah non, mais attendez. Non, mais moi je pense qu'un juge doit être impartial. S'il est avéré dans sa carrière, il doit l'être, bien sûr. Il ne le sont pas.
Mais tous les juges d'instruction, tous les avocats que je connaisse disent les juges d'instruction instruisent à charge. Voilà, tous. Quand tu rentres dans un cabinet, c'est ce qu'ils me disent. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas avocat. Ils disent, voilà, on a le sentiment qu'ils instruisent toujours à charge, jamais à décharge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Gilles?
Alors, moi, je pense que...
Alors que le juge d'instruction doit instruire à charge comme à décharge.
J'ai connu un autre système, j'ai vécu dans un autre pays où ça ne fonctionnait pas de la même manière. Les juges venaient, en gros, il n'y avait pas une école des juges, une école des avocats. Il y avait une école du droit et on passait d'un monde à l'autre qui tenait un peu plus de raison. C'est ce que demande d'ailleurs Maître Dupond-Moretti. Quand vous prenez un jeune juge de 25 ans qui sort de l'école de magistrature, il a envie de marquer des scalps parce que ça fait avancer sa carrière. Donc, il n'est pas impartial.
Merci Gilles de votre témoignage. Greg Caradoni, parfois nous aimons donner un peu de légèreté à cette émission avec des chansons, des musiques, mais ce n'est pas l'heure aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
Eh bien, nous ferons ça demain.
pourquoi pas. Alors, on peut en revanche parler des autres sujets. Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection présidentielle de 2022 ? Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais un tiers des Français redoutent la perspective de se retrouver avec une batterie vide du téléphone.
Je sais pas si le mien est branché, là, au cas où.
Je ne sais pas si c'est essentiel comme sujet, mais bon, en tout cas, si vous avez envie de parler d'autre chose, on pourra.
Bah, moi, je trouve que c'est dommage, parce que ça voudrait dire que nos auditeurs ne pourraient pas nous appeler, par exemple.
Bah, et voilà. Bonne remarque. Tous les soignants des EHPAD doivent-ils se faire vacciner contre la Covid-19 ? Et puis, la petite phrase d'Emmanuel Macron, on en a parlé également tout à l'heure, il faut encore tenir 4 à 6 semaines avant. Imagine-t-on des assouplissements ? Le jugement, à force d'être imminent, il se fait un peu attendre. Il est 13h48, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier qui n'était pas content du sujet que j'ai planté, disiez-vous.
Quelle indignité.
Non, s'il vous plaît. Vous trouvez que j'ai planté le sujet
Un tiers des Français.
Et ça, c'est important.
Qui ont des craintes d'avoir la batterie de leur téléphone vide. Pouvez-vous vous passer de votre téléphone?
Mais ça ne dure pas toute une journée, une batterie?
Tout dépend de la batterie de votre téléphone. Hein. Pour certains, ça peut durer une demi-journée. Est-ce que vous vous sentez nu sur votre téléphone, Pascal Pro? Quand vous êtes en voiture, utilisez-vous le GPS de l'application de votre téléphone portable?
Le GPS de la... Non, pourquoi?
Non, vous n'utilisez pas des applications pour vous rendre à tel endroit et tout?
Non.
Jamais?
Enfin, je conduis.
Mais pourquoi avez-vous votre téléphone portable pendant les publicités alors? Vous avez besoin de votre téléphone portable, Pascal Pro. Vous ne pouvez pas vous en passer, 3210.
Mais c'est un interrogatoire.
C'est un procès.
Allez, Gilbert Azibert et Herzog reconnus coupables. Donc, manifestement, sur les écoutes, c'est Thierry Herzog coupable du délit de violation du secret professionnel. Gilbert Azibert coupable du délit de recel de violation du secret professionnel. Donc, c'est les premiers éléments qui viennent de tomber à l'instant. C'est extrêmement important. Thierry Herzog coupable du délit de violation du secret professionnel. Et donc Gilbert Azibert se fait coupable du délit de recel de violation du secret professionnel.
Et en attendant la décision du tribunal correctionnel de Paris pour Nicolas Sarkozy, vous pourrez réagir aux autres actualités face au Covid-19. Emmanuel Macron appelle à tenir encore 4 à 6 semaines, déclaration du chef de l'État lors d'un échange avec des jeunes dans un centre de formation à Stein, en Seine-Saint-Denis. Enfin, une perspective, un peu d'espoir, écrit Patricia sur la page Facebook. Ça me va très bien, réagit Bernard. 4 à 6 semaines, c'est tout à fait possible. On peut tous le faire s'il y a derrière des assouplissements. Véronique préfère ne pas trop rêver dans un monde où on nous demandera encore un effort. C'est long pour tous les professionnels impactés, conclut Jacques. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous tenir 4 à 6 semaines? 32-10. Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection présidentielle de 2022? Est-ce la fin du Front Républicain? J'ai déjà fait barrage cette fois, c'est fini. C'était la une de Libération ce week-end. Les électeurs de gauche ont confié qu'ils ne voteraient pas Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen en 2022. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour l'Île-de-France, était l'invité d'Alba Ventura ce matin.
Je crois qu'il y a toute une partie de la gauche qui partage en tout cas le discours républicain, laïque que nous défendons. Beaucoup d'électeurs de gauche comme de droite déçus par leurs partis respectifs pourront se retrouver dans le discours de Marine Le Pen. En tout cas, nous les appelons à nous rejoindre pour battre Emmanuel Macron en 2022.
Marine Le Pen gagnante de la présidentielle 2022. Tout est possible pour Catherine. Nous sommes à un peu plus d'un an de l'élection. Le Front Républicain n'existe plus pour Richard. Gérard souhaite que l'on tourne la page Emmanuel Macron. Des électeurs de gauche qui ne feront pas barrage à la candidate du Rassemblement National. Ça ne me surprend pas, rajoute Grégory sur nos réseaux sociaux. Cela souligne surtout qu'il n'y a aucune offre valable à gauche, c'est peut-être cela le plus dramatique dans cette histoire. Partagez-vous ces avis. 32-10. Et puis...
You are the one for me formidable.
Et malgré le fait que vous ayez complètement dévendu mon sujet, Pascal, vous êtes formidable. C'est la journée mondiale du compliment. Alors allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous de belles choses au 3210, 3210.
13h54, les premières indications arrivent de la salle de Paris, du tribunal de Paris, avec, je vous le répète, Thierry Herzog qui est coupable du délit de violation du secret professionnel, Gilbert Azibert qui est coupable du délit de recel de violation du secret professionnel, et pour le moment, rien sur Nicolas Sarkozy. Mais manifestement, la présidente est en train d'égrener, de dire ce jugement. Françoise est avec nous, bonjour. Françoise, nous étions avec Françoise tout à l'heure.
Ouais,
voilà. Donc
là.
Nous avons conclu peut-être, Françoise, et je vais proposer à Myriam d'être avec nous. Myriam, vous disiez sur ce que je lisais sur l'affiche, il n'arrivera rien à Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr que vous ayez raison, Myriam.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Si, moi, je pense que Nicolas Sarkozy fait partie des puissants. Et il y a, regardez l'affaire déjà de M. Jacques Chirac, hein, pour qui, moi, j'avais beaucoup plus de respect que pour M. Sarkozy. Il n'a jamais été condamné, ça a traîné des années.
Si, il a été condamné, Jacques Chirac.
Oui, je veux dire, il n'a jamais fait de prison. Oui, on condamne, d'accord.
C'est pas rien, un ancien. Vous vous rendez compte que si aujourd'hui, même s'il y aura appel, si aujourd'hui Nicolas Sarkozy est condamné, c'est-à-dire que deux anciens présidents de la République, qui d'ailleurs se sont succédés, auraient ou seraient condamnés. C'est quand même pas rien.
Oui, mais bon, ils feront jamais de la prison, comme le petit voleur de scooter ou toutes ces racailles d'en bas dont on parle à longueur de temps. Moi, pour moi, ces gens-là, c'est vraiment des racailles d'en haut, quoi. Voilà, ils sont protégés. Ils
pas vraiment, puisque précisément, ils ont. C'est drôle ce que vous dites, Myriam. C'est l'exact contraire qui est en train de se passer sous vos yeux.
Oui, mais c'est juste pour dire voilà que la justice, elle est indépendante, alors que c'est pas vrai.
Mais vous n'allez pas mettre des gens en prison parce qu'ils se sont écoutés sur un portable téléphonique, quand même,
non, mais
Myriam.
Excusez-moi, monsieur, quand on est président de la République, on se doit d'être un exemple. Voilà, on n'est pas comme le citoyen lambda.
Mais donc encore faut-il que ces choses soient avérées.
Oui, mais bon, excusez-moi, s'ils ont eu des écoutes, c'est qu'ils ont des preuves quand même. Il y avait des écoutes. Vous savez, M. Sarkozy ne sera. De toute façon, il n'a pas à être inquiété sur aucune des affaires. Ça va traîner des années et des années encore. Et après, il ne fera jamais de prison.
Bon, manifestement, ce n'est pas votre ami Nicolas Sarkozy.
Ben non, j'écoutais les gens, là. Ils avaient tous l'air de le défendre, etc. Moi, je pense que... Vous savez, c'est comme, comment dire, les trafics de drogue. Alors, on parle des petits caïds, là, qui tiennent, soi-disant, ils gagnent des milliers, des cents. Et pourquoi ils sont dans les quartiers s'ils gagnaient tant d'argent? Pourquoi ils partent pas des quartiers? Ils peuvent toujours continuer à vendre leur drogue. Pourquoi ils sont toujours dans ces quartiers-là? Parce que la réalité, c'est que personne n'ose s'attaquer à la grande mafia, à la vraie grande mafia qui est en haut, hein, qui a des liens avec les politiques. Tout ça évolue, monsieur. Vous savez,
analyse un poil complotiste. C'est-à-dire qu'on laisserait les gens d'en haut seraient avec la grande mafia.
Ben oui. C'est connu que le roi du Maroc, c'est le plus grand trafiquant de drogue.
Alors, pardonnez-moi, là, je suis obligé, et c'est le modérateur que je suis.
Tout le monde le dit, monsieur.
Oui, non, mais personne ne le dit. Myriam, là, on est sous le cadre de la diffamation. Donc, je suis obligé de retirer ce que vous dites, même pour vous, parce que on pourrait vous reprocher vous pourriez être attaqué pour diffamation, ce que je ne souhaiterais pas. Convenez-en, Myriam. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser passer une page de publicité, parce qu'effectivement, c'est le modérateur que je suis ne peut pas laisser les uns et les autres s'exprimer de cette manière-là. Toutes les opinions, évidemment, sont possibles, mais vous ne pouvez pas diffamer à l'antenne. Donc, merci beaucoup Myriam. 13h57, et la publicité, et puis le flash, et puis le tribunal de Paris. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
Les 14h. Le flash avec l'info du jour, Olivier Bois.
Oui, l'info qui vient de tomber, Nicolas Sarkozy déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président a été poursuivi et a été jugé pour avoir tenté de soudoyer un magistrat pour tenter d'avoir des informations sur une enquête en cours. Il est donc reconnu coupable par la justice. On attend de connaître maintenant les peines. Ça n'est pas encore tombé. Son avocat Thierry Herzog est également reconnu coupable, lui, de violation du secret professionnel. Et Gilbert Azibert, le magistrat précisément concerné par cette enquête et lui déclaré coupable de recel de violation du secret professionnel. Encore une fois, pour ces trois personnes, on attend de connaître le jugement. Le parquet de Paris, à l'époque du procès, avait requis 4 ans de prison contre Nicolas Sarkozy, dont 2 ans ferme. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron qui évoque un horizon pour l'épidémie de Covid. Il était en déplacement en Seine-Saint-Denis, interrogé de manière informelle par un jeune qui lui demandait de décaler le couvre-feu à 19h. Il a dit « il faut tenir entre 4 à 6 semaines ». Avant quoi, là, le président n'a pas fait plus de commentaires que cette simple phrase, Pascal.
Nicolas Sarkozy est condamné pour le moment à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis simple. Thierry Herzog, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis plus peine complémentaire, interdiction d'exercer sa profession d'avocat pendant 5 ans. Et Gilbert Azibert, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis.
Merci pour cette dernière minute, Pascal. Un mot après la mort du jeune Ayman tué par balle vendredi soir à Bondy. Les deux frères impliqués sont chez le juge en ce moment en vue d'une mise en examen pour assassinat. La justice retient donc la préméditation. C'est un différend qui opposait les deux frères à la victime. Il y avait déjà eu plusieurs altercations. Et puis les courses, à l'instant, l'arrivée provisoire. L'As, le 2, le 5, le 4 et le 6. Voilà pour l'actualité, la principale information évidemment. On en parle avec vous Pascal, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel de Paris.
Bien sûr, et je répète ces condamnations qui sont tombées il y a quelques secondes. Nicolas Sarkozy, 3 ans de prison dont 2 avec sursis simple. Ça fait une année, si je comprends bien, de prison ferme. Thierry Herzog, 3 ans de prison dont 2 avec sursis plus une peine complémentaire et interdiction d'exercer sa profession d'avocat pendant 5 ans, peine extrêmement lourde bien sûr, et Gilbert Azibert 3 ans de prison dont 2 avec sursis. Évidemment, ces peines, les avocats vont faire appel très certainement, bien sûr, de ces jugements. Donc, l'appel en France est suspensif. Donc, c'est important de le dire. On repartira quasiment à zéro et Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert seront présumés innocents. C'est ainsi que fonctionne la justice en France lorsqu'on fait immédiatement appel devant un autre tribunal d'appel. Hein, les trois personnes, les trois prévenus passaient en correctionnel, donc l'appel est suspensif. Je le rappelle, Nicolas Sarkozy, coupable de corruption et trafic d'influence. Peut-être que Monique a envie de réagir, puisque nous sommes toujours dans cette émission particulière avec les auditeurs, et on aura peut-être Anne Lehnaf également qui est sur place tout à l'heure pour RTL. Monique, bonjour.
Alors bonjour Pascal, je suis contente de vous entendre et comme c'est la journée du compliment, je voulais vous certifier que vous faites des émissions superbes et que je vous aime beaucoup.
Bah écoutez, vous êtes très gentille, Monique.
Ça c'est dit.
Votre avis.
Par contre, mon avis, je suis dégoûtée, je trouve que c'est dégueulasse. Ils voulaient se faire Sarkozy et ça y est, c'est fait. Mais bon, ils vont faire appel, comme vous
ils
dites.
Ils vont faire appel, hein.
Bien sûr. Mais moi j'étais...
Président de la République condamné à de la prison ferme. Hein. C'est Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis.
Oui, j'ai entendu. Et
la partie ferme pourra être aménagée, évidemment. Il ne va pas être en prison, mais c'est quand
non,
même...
Non, écoutez, il n'a tué personne. Hein.
Oui.
Quand on voit ce qu'a fait Cahuzac, quand on voit ce qu'a fait celui qui nous a servi de prisonnier pendant 14 ans, bon, on n'a plus rien prouvé, mais en fait, il nous a quand même coûté cher avec sa fille. Et puis,
j'entends bien, mais il est clair que un ancien président de...
Excusez-moi de vous couper. S'il y avait eu Internet à l'époque, il n'aurait pas gardé sa fille cachée pendant 14 ans. Ceci dit, sa fille n'y est pour rien. Elle n'a pas demandé à venir sur Terre. Et sa compagne ne s'est jamais fait remarquer. Ça, il faut le dire. Hein. Mais ça nous a quand même coûté cher. Mais d'abord, déjà, celui qui a fait les écoutes, c'est dégueulasse. Il y a bien quelqu'un qui a écouté, qui a raconté. Il y a une taupe là-dedans. Mais alors, qui est la taupe, ça, on ne sait pas.
Bah, c'est pas tellement, j'ai envie de vous dire, le sujet du jour. Maintenant, c'est...
Ah ben, si,
on
n'en
est
hein.
plus là.
Ah ben, attendez. Moi, je sais que je serai à la place de Sarkozy. Je voudrais bien savoir qui c'est qui a balancé tout ça. Hein, y a bien quelqu'un qui a découvert qu'il s'appelait Paul Bismuth sur son portable. C'est pas moi, hein, je vous le jure. Hein.
Non, mais c'est une affaire
de
qui est très compliquée.
Moi, je suis sarkozyste, alors.
C'est ce qu'on appelle des écoutes filaires. Ils écoutaient Nicolas Sarkozy sur un dossier, puis sont tombés par hasard sur d'autres, sur d'autres écoutes. Donc c'est assez complexe.
Il ferait mieux d'écouter les voyous. Hein. Je vais vous dire, quand on voit ce qui se passe en ce moment, excusez-moi. Hein. Moi, ça me met en colère, hein, parce que... Oh là là, mon Dieu.
Bon, ça vous met en colère, mais qu'est-ce que ça vous inspire, à part la colère comme,
Du dégoût.
Pourquoi ça?
Du dégoût. De toute façon, on sait très bien que les magistrats, ils sont tous de gauche. Hein. Et ils ont tellement peur qu'ils reviennent l'année prochaine qu'ils préfèrent
Mais vous savez que vous pouvez... Il n'y a pas de peine d'inéligibilité qui a été prononcée et Nicolas Sarkozy, en soi, peut très bien se présenter. Hein,
je ne crois pas que si vous êtes en prison, vous allez vous présenter.
D'abord,
hein.
D'abord il ne sera pas en prison, mais il n'y a pas de peine d'inéligibilité et sauf erreur de ma part, tu peux te présenter à la présidence de la République avec une condamnation.
Bah oui, enfin bon.
Mais on n'en est pas là. Monique, vous avez...
Moi, je suis dégoûtée, là. Hein.
Oui, j'entends bien, mais vous êtes une électrice, peut-être une fan de Nicolas Sarkozy ?
Absolument.
Donc forcément...
Et pourtant, quand il y a eu l'affaire Big Malion, j'ai rendu ma carte du parti. Parce que j'ai fait partie de l'UMP, pas de LR. Hein. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Mais en fait, il faut prouver les choses. Hein. Mais enfin, bon, ils doivent être contents, là, les magistrats. Ils vont aller boire un coup, là, ils vont aller boire le champagne.
Ben, c'était, on le disait, c'était une affaire où l'interprétation est possible. Donc,
attendez, parce que c'est pas fini. Il y a l'autre la semaine prochaine qui arrive.
Oui, voilà. mais cette affaire, curieusement, était la plus dangereuse pour Nicolas Sarkozy parce qu'il y avait une possibilité d'interprétation pour les magistrats, puisqu'il n'y a pas d'élément matériel. Enfin,
ben oui, bien sûr, bien sûr. Bon,
donc, c'est ce qu'on appelle les faisceaux de présomption. Et le parquet national financier était allé loin.
Oui, mais déjà, il était condamné avant d'être jugé, alors, de toute façon. Enfin, pour moi, hein.
Ce qui nous intéresse, c'est votre avis.
Ça n'engage que moi, ce que je dis. Pour moi, il était condamné avant d'être jugé, alors. Bon.
C'est le principe de cette émission, en plus, en même temps. Oui. C'est les auditeurs ont la parole. C'est ça qui est important. Bon, bah, merci beaucoup, Monique. Permettez-moi.
Ça m'a gâché la journée.
Bah, écoutez, Françoise, vous voulez dire un mot ?
Oui, je veux dire un mot en disant je pense qu'il ne s'attendait pas à mieux. Parce qu'effectivement, ben, on sait très bien de comment ça se passe. Mais je sais que de toute façon, il ne lâchera rien et qu'il va aller en appel et qu'il arrivera... parce qu'il arrivera au bout de... entre guillemets, on lui en veut ou j'en sais rien, mais il ne va rien lâcher. Et de toute façon, ce qu'il a reçu aujourd'hui comme jugement, je pense qu'il s'y attendait. Je pense. Il n'attendait pas non plus un truc extraordinaire, tout va bien, j'ai rien fait, et voilà, non. Il sait qu'il va aller, et en fait, c'est un homme de combat, je pense. Voilà, c'est un homme de combat, et il va aller jusqu'au bout du bout.
Ben merci et beaucoup, Françoise.
Pourrait, dans le sens où il pourrait dire que la magistrature, parfois... C'est plutôt, c'est compliqué. Voilà.
Merci Françoise, une pause et nous poursuivons les débats avec les auditeurs. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy est donc condamné aujourd'hui à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite Les Écoutes, née en 2014 d'interceptions téléphoniques avec son avocat historique Thierry Herzog. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un pacte de corruption avait été conclu entre l'ex-président, maître Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, également condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Nous sommes avec Benoît. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Je vais très rapidement commencer, puisque c'est la journée du compliment, en vous complimentant pour votre très belle imitation de Monsieur Frédéric Mitterrand.
Vous êtes très gentil, Benoît. Ah. Merci. Ouais, enfin, mes talents sont reconnus.
Oui, je ne sais pas si elle était véritablement faite exprès, mais en tout cas, elle était très très bien.
Et bien sûr, c'est ce que je me tue à dire à mon ami Grégory Caronani, qui feint de ne pas le reconnaître.
Le problème, c'est que c'était jamais Frédéric Mitterrand, mais c'est super en tout cas.
Allez-y, Benoît. Allez-y.
Oui, alors en fait, moi, je suis pas un spécialiste du droit, je suis pas un professionnel du droit, mais il y a une tendance quand même qui me fait penser, qui me fait espérer que la justice va redevenir quelque chose de complètement indépendant. Mmh. Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, on remarque qu'il y a quand même des personnes importantes, des personnes politiques qui se retrouvent face à la justice. Pour parler de Monsieur Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, c'est un peu antagoniste ce que je vais vous dire, mais il y a rien contre lui. Il n'y a pas véritablement de preuves réelles contre lui. Et pourtant, je ne suis pas un sarkozyste, je vous le dis tout de suite. Pour moi, je pense qu'il va uniquement s'en sortir avec du sursis, donc peut-être 2 ans, 3 ans de sursis, mais uniquement, tout simplement pour qu'il fasse, qu'il soit comme un exemple parmi les anciens présidents de la République et qu'il soit pris comme un peu un exemple. C'est-à-dire, faites attention à vous maintenant parce qu'on va aller fouiller de plus en plus certainement. Il y aura certainement de l'inéligibilité qui va en sortir. Il n'était pas facile ce mot-là, ça fait 2 fois que je le loupe. Je pense vraiment pas qu'il prendra du ferme, j'en suis même un peu près sûr, parce qu'il n'y a rien contre lui. Mais il va quand même prendre certainement du sursis parce qu'il faut que ce soit absolument un exemple pour les autres, pour ceux qui sont passés juste avant et pour ceux qui vont venir après. Alors, est-ce que c'est politique tout ça ? encore une fois, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste, peut-être, il y a peut-être quelque chose de politique, mais ce que je retiendrai de tout ça, c'est surtout la justice doit redevenir et est en train de revenir, du moins je l'espère, complètement indépendante. Je l'espère, c'est tout.
Bah écoutez, merci Benoît. Raphaël est professeur de droit et il habite dans le Puy-de-Dôme et c'est intéressant parce qu'en fait tout le monde a un avis, c'est ça qui est drôle parce que personne connaît au fond le dossier mais tout le monde a un avis et je suis évidemment l'avis il est en fonction de si on aime ou pas le président Sarkozy. Bonjour Raphaël.
Bonjour Pascal. Bah écoutez, moi d'abord ce sera pas un avis qui aime ou qui aime pas parce que à la limite je m'en fous, mais ce que je veux dire c'est que contrairement à ce que dit le prédécesseur, c'est pas qu'il y a rien dans le dossier. La justice condamne pas pour rien. La justice, elle a condamné.
Bah, elle peut parfois condamner.
Voilà. Ouais. Ah,
si vous me permettez.
Elle condamne pas pour rien. Elle
non, mais,
pas pour
non,
rien.
Mais Benoît, si vous me permettez, juste alors que Nicolas Sarkozy est en train de sortir, si vous me permettez, on a un exemple quand même qui est formidable. Georges Tron, il est acquitté en 2018, il prend 5 ans ou 3 ans ferme 2 ans plus tard. Je me mets à la place de Georges Tron. Ça s'est passé il y a quelques jours. C'est le même dossier. C'est le même dossier. À
ah,
deux ans de différence.
Il y a des fois des éléments nouveaux.
Non, il n'y a pas d'éléments dossier.
Il y a des fois des éléments nouveaux.
Bah, si, pas si, sur ce dossier-là.
Des éléments nouveaux. Pas de les avocats peuvent soulever.
Mais pas sur ce dossier. Pas sur ce dossier.
On l'a pas
non,
lu.
Mais bah, moi, j'ai lu. Alors, pardonnez-moi, mais je l'ai suivi vraiment, ça m'intéressait. Il n'y a aucun élément nouveau. Par définition, c'était le même. C'était le, comment dire, la même accusation. Donc là, c'est des avocats, ils n'ont rien apporté de nouveau, et pour cause, puisque en première instance, il avait été acquitté. L'accusation n'a pas changé. Eh bien, en deux ans, vous avez un jugement qui vous acquitte, l'autre qui vous met trois ans. Donc,
oui. Là,
c'est la justice
Sarko,
des hommes.
Le dossier de Sarko, j'allais dire qu'il y, avait, il y a des éléments, ils n'ont pas condamné sur rien. Ils
ça s'appelle un faisceau de présomption.
Ou un pacte de corruption. Ils ont
ou un pacte de corruption, exactement.
Ah, non, mais ça, il peut l'être. Peut l'être.
Alors, mais bien sûr,
chose,
ça
c'est
peut.
Que dans ce dossier, bon, ça prouve que les présidents peuvent être condamnés, mais ça, il n'y a rien de nouveau. On a eu Chirac, etc. Mais par contre, moi, je veux dire que je veux
un président de la République, un enferme, c'est la première fois que ça arrive. Hein.
Ah non, mais il y a une condamnation pénale, je veux dire. Mais un enferme, mais il ne va pas la faire, donc il n'y aura pas de ferme. Il y aura
oui,
juste
mais
un aménagement
oui,
de peine.
Mais vous vous rendez compte, mais... c'est...
Oui, mais ça impressionne le monde médiatique. Mais j'allais dire que ça ne va pas impressionner Sarko, rassurez-vous. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que tout ça, ça a été obtenu grâce à une personne. On oublie ce que je disais tout à l'heure. C'est grâce à Jacques Chirac. Merci Chirac sur sa réforme du statut pénal du chef de l'État en 2007. Et je peux vous dire, parce que j'étais très bien
quel
informé à l'époque...
Quel est le rapport avec Jacques Chirac?
Eh bien, Jacques Chirac a fait en sorte de mettre dans la Constitution, juste avant qu'il parte, une réforme du statut pénal du chef de l'État. C'est les articles consacrés à la Haute Cour de justice. Hein. Et Jacques Chirac a permis le fait que lui-même soit condamné. Si vous prenez, c'est le titre 9 de la Constitution, là, c'est un peu mon job. Et il y a eu une grosse réforme en 2008, impulsée par Jacques Chirac. Et je vous signale au passage...
Oui, mais là, il
n'était
plus en état de président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est en 2014, son mandat était terminé.
Oui, mais s'il a pu être là condamné, c'est aussi parce qu'on a permis qu'un chef de l'État, en 2007, Jacques Chirac a permis qu'un chef de l'État sorti de ses fonctions puisse être poursuivi. C'est cette réforme de 2007.
Quand vous étiez en dehors de vos fonctions, vous redeveniez un citoyen lambda.
Mais il y avait une protection qui s'appliquait au président. Il y a une protection qui s'applique pendant un mois.
Mais la protection, c'est durant son mandat, sur les faits durant son mandat, mais pas en 2014, il n'était plus président de la République pendant deux ans. Ça serait quand même extraordinaire si le président de la République, après son mandat, quelles que soient les choses qu'il fasse, était... on ne pouvait jamais le poursuivre. Ce que vous dites me paraît étrange.
Non, mais si, c'est que le président de la République, il y a malheureusement, par le passé, il y a plein de présidents qui ont échappé à des choses, parce qu'on n'a pas pu mettre en place des dossiers, parce que le
mais
président était véritablement
durant le temps de leur mandature.
Et après, mais oui, non, mais jusqu'à...
Après, ils ne sont pas inviolables jusqu'à la fin de leur vie, quand même.
Pendant un mois de leur fonction, ils sont, j'allais dire, pas touchables. Au bout d'un mois, ils sont touchables. Mais cette réforme, si Jacques Chirac ne l'a pas mis en place, les présidents restent intouchables. Ça, c'est une certitude. Malheureusement, on n'a pas de passé pour s'y référer. Parce qu'avant Chirac, il ne s'est rien passé. Mais bon. Depuis cette réforme de 2007, on a la possibilité, au bout d'un mois, de poursuivre un président. Chirac l'a été lui-même. Et ben, Sarko l'est. Bon, le temps est passé. Sarko l'est. Mais j'allais dire que l'important, c'est que depuis cette période, il y a deux présidents qui ont pu être
poursuivi, l'un condamné plus légèrement, Chirac, et Sarkozy condamné plus sévèrement. Mais j'allais dire que maintenant, c'est peut-être passé dans les mœurs politiques qu'un président peut être condamné sur des bases de poursuites pénales. C'est plutôt positif.
Mais merci Raphaël, en tout cas c'est votre avis, c'est ça qui est important dans cette émission. 14h19, il nous reste une petite dizaine de minutes, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Ni les avocats, ni les trois condamnés se sont exprimés. Ils sont en dehors du palais de justice. Hervé Temim est en train de passer des coups de fil. J'ai reconnu également Thierry Herzog, puisque Thierry Herzog est défendu par Hervé Temim. Le président Sarkozy a quitté le palais de justice. Aucune déclaration. Jacqueline Lafont, qui est l'avocate de Nicolas Sarkozy, ne s'est pas exprimée. Et pour le moment, Hervé Temim, Thierry Herzog sont encore en dehors du palais de justice. Est-ce qu'ils feront appel? Évidemment, après une condamnation aussi lourde, on n'imagine pas ceux qui sont aujourd'hui, ces trois condamnés, ne pas faire appel. Est-ce qu'on le saura aujourd'hui ou pas? C'est une des questions du jour. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal, ravi de vous avoir au téléphone.
Eh ben, ravi, partagé, si j'ose dire.
On s'était eu au téléphone, mais vous étiez côté football, à une époque, ça remonte à loin.
On parlait de football. Thierry, ça vous ennuie si je demande la parole à Cindy Hubert, qui est journaliste au service police-justice de RTL, et qui peut-être va nous apporter quelques précisions. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour Pascal.
Vous avez assisté évidemment à l'audience, racontez-nous.
Eh bien voilà, le tribunal vient d'étrier des faits d'une particulière gravité, d'autant qu'ils ont été commis par un ancien président de la République. Pour la justice, un pacte de corruption a donc bien existé. Nicolas Sarkozy est condamné pour avoir promis un coup de pouce à un ancien magistrat en échange d'informations confidentielles sur un de ses dossiers judiciaires. À l'annonce de sa condamnation, Nicolas Sarkozy n'a pas bronché, il est resté stoïque sur sa chaise. 3 ans, dont 2 avec sursis, cela signifie que l'ancien président va pouvoir effectuer cette peine sous bracelet électronique. Et décidément, cette année 2021 compte très mal pour Nicolas Sarkozy, puisque dans 16 jours, un autre procès l'attend, le procès Big Malion sur ses comptes de campagne, qui est prévu le 17 mars prochain.
Pas de réaction, hein, ni des, de ceux qu'on appelle maintenant les condamnés. Ils ne sont plus prévenus, hein, Cindy Hubert.
Absolument, ils sont désormais condamnés. Ils ont 10 jours pour faire appel.
On peut imaginer d'ailleurs, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, qu'ils fassent appel tant ces jugements est rude pour ces trois condamnés. Et pas de réaction, ni donc des condamnés, ni des avocats. Personne n'a parlé.
Personne n'a parlé, d'autant que la présidente du tribunal avait prévenu. Elle ne voulait aucune réaction, pas de réaction dans la salle. Elle voulait, d'autant qu'il y a beaucoup de public, donc je pense qu'elle avait aussi prévenu le public pour pas qu'il y ait de vagues dans la salle, si j'ose dire. Et donc les trois personnes, donc les trois condamnés, sont partis, et on devrait savoir, je pense, assez vite si l'un d'entre eux va faire appel.
Merci beaucoup Cindy Hubert, en direct du palais de justice de Paris. Thierry, l'émission est quasiment terminée. Je vous propose que demain vous soyez le premier auditeur à 13h05. Ça vous va?
Avec plaisir. Avec
13h05. Je suis vraiment désolé parce qu'autrement vous aurez 10 secondes, ça n'aurait pas de sens.
Je comprends très bien, Pascal.
Rendez-vous 13h05 demain, l'heure du débrief, Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet du jour. Nous avons attendu toute l'émission le jugement du tribunal correctionnel de Paris pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes.
Ce jugement, vraiment, l'audience a commencé à 13h30, c'est imminent.
Il a fallu être très patient.
Le jugement, à force d'être imminent, il se fait un peu attendre.
Et l'annonce est tombée à 14h03. L'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Monique a réagi à chaud.
Je suis dégoûtée, je trouve que c'est dégueulasse. Ils voulaient se faire Sarkozy et ça y est, c'est fait. Mais bon, ils vont faire appel, comme vous dites.
Ils vont faire appel, hein.
Bien sûr. Moi, ça me met en colère, hein, parce que, oh là là, mon Dieu.
Et Gilles avait anticipé cette annonce.
C'est une parodie de justice. La justice donne pas une impression d'impartialité.
Autre réaction au 32-10, celle de Benoît.
Ce que je retiendrai de tout ça, c'est surtout la justice doit redevenir et est en train de revenir, du moins je l'espère, complètement indépendante.
Alors aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé, c'est la journée mondiale du compliment. You are the one for me,
Formidable.
Mais à quoi sert cette journée? Demandons à Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL.
Eh bien, on ne sait pas.
Eh oui, merci pour votre analyse, Benjamin. Allez, un message pour Pascal, Sabine.
Dans le cadre de la journée du compliment, je voulais vous remercier de l'honnêteté de vos réflexions.
Allez, autre chose à rajouter, Monique?
Comme c'est la journée du compliment, je voulais vous certifier que vous faites des émissions superbes et que je vous aime beaucoup.
Eh bien, merci à vous et sachez-le, dans les auditeurs ont la parole. Si vous êtes pressé, même pendant votre intervention, vous pouvez faire une petite pause.
Non, mais attendez, 30 secondes.
Je vous en prie.
Vous avez été mis en attente.
Ah.
Ne quittez pas.
Ah, François.
Je ne sais pas comment vous allez.
François, il nous a bâché, François. Il nous a mis en attente. C'est pas nous, hein. Je précise, je ne sais pas nous.
Vous avez été mis en attente.
Et le plus terrible aujourd'hui, c'est cette annonce de votre part, Pascal.
Parfois, nous aimons donner un peu de légèreté à cette émission avec des chansons, des musiques, mais ce n'est pas l'heure aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
Ah, ce n'est pas le moment, et pourtant, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se quitter tout de même avec la chanson qui permet de respecter la distanciation physique et qui ne vous ne fera pas toucher votre masque toutes les 3 secondes. Vous avez déjà dansé la Macarena?
Oui. J'ai dansé jadis. Est-ce que Madame Flamand est là? Madame Flamand est arrivée. Ah, Madame Flamand arrive, tout de beige et de noir vêtue. Nous allons marquer une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.